C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci, encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. « C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ?»« Oui, c'est vrai. »« Ah, je suis content. » Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta. « Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. » Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que les moutons mangent les petits baobabs ? Il me répondit. Bah, voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue des rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin, pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'il voyage un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis « Enfants, faites attention aux baobabs !» C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. C'était Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Brigitte.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
La grenouille et le scorpion, une histoire africaine.
Sur les bords d'un marigot, il y avait un scorpion qui désirait passer de l'autre côté. Il s'adressa alors à une grenouille.
« S'il te plaît,
lui dit-il,
prends-moi sur ton dos et aide-moi à traverser. »
« Mais tu es fou !»
répliqua la grenouille.
« Si je te prends sur mon dos, tu vas me piquer et je vais mourir. »«
Ne sois pas stupide !»
répondit le scorpion.
« Quel intérêt aurais-je à te piquer ? Si je te pique, tu coules et je meurs moi aussi puisque je ne sais pas nager. »
Finalement, à force de palabres, la grenouille se laissa convaincre et elle entama la traversée du marigot avec le scorpion sur le dos.
Mais au milieu du fleuve, la grenouille sentit la brûlure d'une piqûre et le poison engourdir ses membres.
« Tu vois ? »
cria-t-elle.
« Tu m'as piqué et je vais mourir. »«
Je sais, »
répondit le scorpion.
« Je suis désolée, mais on n'échappe pas à sa nature. »
Et il disparut lui aussi dans les eaux boueuses. C'était La grenouille et le scorpion, une histoire africaine.
De Pierrot
et Salomon.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Mona Lisa de Géraldine Elchner. Dimanche 20 août 1911. Le dimanche était gris, aussi gris que les toits de Paris. Du haut de sa chambrette, Angelo observait le ciel de plomb. Pas question d'aller saluer les girafes du jardin des plantes. L'orage éclaterait d'ici peu. Et si j'allais faire un tour au musée, se dit le bel Italien. Le lendemain, il devait y réparer un carreau cassé près d'une salle où trônait une jeune femme très jolie et italienne comme lui. Angelo pourrait déjà déposer une partie de son matériel et prendre quelques mesures tout en admirant la belle inconnue. Aussitôt, il se mit en route, ses vitres sous le bras. Les premières gouttes martelaient le pavé au moment où Angelo atteignit le quai de la Seine. Ouf ! Il s'engouffra dans la cour du Sphinx, prit l'escalier de service et déposa ses plaques de verre dans le petit réduit qui servait de débarras. Depuis le temps qu'il travaillait là, le vitrier connaissait le musée comme sa poche. Quelques minutes plus tard, il pénétrait dans le salon carré, le maître à la main, un crayon derrière l'oreille. Dès qu'il entra, Angelo la reconnut. Mona Lisa. Petite, c'est vrai, mais ah, molto bella. Et si vivante, on aurait dit qu'elle respirait paisiblement. Fascinée, Angelo s'arrêta. Ce regard de velours, ce sourire mystérieux. Mais était-ce possible ? On aurait dit que c'était lui qu'elle regardait droit dans les yeux. Lui à qui elle souriait si tendrement. Angelo rougit jusqu'aux oreilles. Son crayon en tomba sur le pavé et tout en le ramassant, il se retourna. La belle ne le quittait pas des yeux. Plusieurs fois, il passa et repassa devant elle, fit semblant de mesurer un cadre de ci, de là. son sourire lui chatouillait la nuque. Aucun doute, la jolie Florentine le trouvait fort à son goût. Le cœur d'Angelo se mit à battre comme un fou. « Mona, amore mio !» murmura-t-il, la moustache frémissante. Un éclair déchira le ciel. La foudre venait de le toucher en plein cœur. Lorsque le gardien annonça la fermeture des salles, Angelo se glissa dans le cagibi pour y attendre la tombée de la nuit. Que se passa-t-il alors quand, au clair de lune, il va la rejoindre? Est-ce elle qui lui demanda de l'emmener ou lui qui la supplia de le suivre? Mystère. Une chose est sûre, elle plongea ses yeux dans les siens lorsque, fou d'amour, il la déshabilla de son cadre. Et elle sourit aux anges quand il l'emporta, serré contre son cœur, dans la douceur du petit matin. La nouvelle fit fureur. « On a volé la Joconde, on a volé la Joconde !»« Quel scandale !» Le tout Paris était sans dessus-dessous. Chacun accusait son voisin. Peintre ou poète, tout le monde y passa. Mais en vain. Mona s'était fait la belle pour de bon. « Envolée, la jolie Florentine, évaporée, sfumata !» Sur les lieux, il ne restait d'elle que quatre petits clous au mur que chacun vint admirer, désespéré. À quelques pas de là, les invités des noces de Cana avaient tout vu, bien entendu. Mais aucun d'eux ne trahit le doux secret dont était témoin. Dans la chambrette, pendant ce temps, Mona trônait sur la table. Du matin au soir, elle regardait son amoureux et elle lui souriait. Et du soir au matin, elle lui faisait les yeux doux et elle lui souriait. Angelo jubilait. Il se mit même à rêver d'un bambino aux yeux de biche. Mais avec le temps, il finit par déchanter. « Mamma mia, Mona, arrête donc de me regarder comme ça. Je t'aime, tu m'aimes, mais quand même !» Ce sourire angélique, ce regard posé sur lui, sans arrêt, pendant qu'il mangeait, qu'il bricolait, qu'il dormait, qu'il ronflait, qu'il... « Ah, pitié, ti supplico !» suppliait Angelo, qui se mit à manger sous sa table, à dormir sous son lit, à se cacher derrière les rideaux. Mais santo cielo, ses yeux qui le suivaient, qui le poursuivaient, qui l'enfermaient, étaient pires que des barreaux. Deux années durant, tant bien que mal, il supporta cette prison d'amour. Mais un beau jour, sa colère éclata. « Finito, lâche-moi les baskets, je te ramène chez ta mère. » Car ce paysage derrière elle, si, si, Angelo l'avait reconnu. La route enlacée, le pont sur la rivière, c'était la Campagna d'Italie où il avait grandi, lui aussi. À bout de nerfs, il enveloppa la Bella dans un manteau de velours rouge, la coucha au fond de sa malle de bois, la cacha sous une montagne des chaussettes et de vieux goudillots. Et basta! Et incognito, ils passèrent la frontière, longèrent des lacs profonds, traversèrent le pont qui enjambe la rivière et arrivèrent enfin à Florence sous un soleil de plomb. Mais là, pas moyen de retrouver la mama de Mona, ni son papa non plus. Leonardo, dirent les voisins, était mort depuis belle lurette. Alors Angelo fourra sa Mona dans les bras du premier Alfredo venu. Ouf! Partito, le pot de colle. Collectionneur de jolis portraits, Alfredo recueillit la belle et lui fit faire un petit tour d'Italie. Au bout de quelques mois, pourtant, allez savoir pourquoi, il finit par la rendre à Paris. Oh, quelle retrouvaille! Le tout Paris fut sans dessus-dessous. Mona retrouva donc ses clous et Angelo, sa prison, une vraie prison cette fois, mais pas pour longtemps, heureusement. C'était Mona Lisa de Géraldine Eschner, lue par Julie.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Diogène et les lentilles. Apologue de Diogène le cynique, rapporté par Diogène Laërce.
Le philosophe grec Diogène dont on dit qu'il vivait dans un tonneau, est bien connu pour son amour absolu de la liberté et de la nature.
Un jour qu'il était en train de souper d'un frugal plat de lentilles, il fut interpellé par le philosophe Aristide, qui, de son côté, menait une existence dorée, car il faisait partie des courtisans du roi. Avec un peu de mépris, Aristide lui lança.
Tu vois, si tu apprenais à ramper devant le roi, je ne serais pas contraint à te contenter de déchets comme ce vulgaire plat de lentilles. Diogène le foudroya du regard et répliqua.
Si tu avais appris à te contenter de lentilles, tu n'aurais pas à ramper devant le roi.
On raconte aussi que le grand roi Alexandre, qui admirait le détachement de Diogène, vint un jour lui rendre visite.
Diogène était alors allongé à moitié nu au soleil. Alexandre le Grand s'approcha et lui signifia toute son admiration.
« Demande-moi ce que tu veux et je te l'obtiendrai. » Diogène leva la tête et répliqua simplement.
« Ôte-toi de mon soleil. » On raconte encore que Diogène avait un esclave du nom de Manès. Un jour, celui-ci s'enfuit et Diogène ne se soucia nullement de le rechercher.
Tous ses amis s'en étonnèrent.
« Et quoi ?»
leur répondit Diogène.
« Manès peut vivre sans Diogène et moi, je ne pourrais pas vivre sans Manès. Mon esclave s'est échappé, c'est Diogène qui s'est libéré. »
Diogène et les lentilles, apologue de Diogène le cynique, rapporté par Diogène Laërce, de Pierrot
et Salomon.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
La bravoure du troubadour de Marie Tibi et Adeline Ruel. Au château de Haute-Marche, Dame Aliénor monte au donjon. Arrivée dans la chambre de son petit garçon, elle l'embrasse celui-ci et s'écrie « Bon anniversaire, Lubin !» Le seigneur Fulbert, le père de Lubin, arrive à sa suite. « Mon fils, tu as 7 ans, l'âge d'être écuyer. Ce soir, nous organiserons un banquet en ton honneur. Dès demain, tu commenceras ton apprentissage, l'escrime et la fauconnerie. » Le jeune garçon est content d'apprendre à s'occuper des faucons. Quant à manier l'épée et monter à cheval, il n'y a jamais pensé, car depuis toujours, il a une autre idée. C'est que je préférerais chanter. J'aimerais être troubadour. Troubadour, hurle son père. Pas question. Tu es le fils du seigneur de Haute-Marche. Tu seras donc chevalier. Tu gagneras tournois et batailles. Ah, Lubin soupire. Mais son père ne veut rien entendre. En partant, le bouillant seigneur lui confisque son tambour et son luth. Heureusement, il n'a pas repéré sa flûte cachée sous l'oreiller. Après le déjeuner, Lubin monte sur le chemin de ronde. Il contemple un moment les douves remplies d'eau. Dans le pays, on raconte qu'elles sont habitées par un dragon cracheur de feu. De quoi décourager bien des curieux. « Je suis trop grand pour croire à ces histoires, estime Lubin. » Bien vite, il n'y pense plus. il a d'autres soucis en tête. Il récupère sa précieuse flûte et décide de s'enfuir. La chevalerie, ce n'est pas pour lui. Mais comment faire pour se sauver discrètement ? Lubin aperçoit une charrette qui part pour le village. Vite ! Il dévale les escaliers et court se cacher à l'arrière de la charrette. La charrette démarre. Ouf, ça secoue fort. Au milieu du pont-levis, Lubin perd l'équilibre. Plouf ! Il tombe dans l'eau noire. Les douves sont profondes, mais Lubin réussit à s'accrocher à une branche. Juste au-dessus de lui, il y a un trou dans le mur. On dirait l'entrée d'une grotte. Avec mille précautions, il pénètre à l'intérieur. Qui ose me déranger ? Gronde une grosse voix, causant à Lubin la frayeur de sa vie. C'est un énorme dragon hérissé de colère. La légende disait vrai.
Je ne fais que passer, messire dragon, tremble Lubin.
Et en plus, tu te moques de moi ? Ne vois-tu pas que je suis une dame ? D'ailleurs, tu viens de réveiller mon bébé que j'ai eu un mal fou à endormir.
Ouin, ouin, ouin ! Cria dans un coin le dragonneau.
Grrr ! Rugit sa mère. Une fumée inquiétante sort de sa bouche.
Oh, voilà ma dernière heure arrivée, se dit Lubin. Adieu, chers parents. Je ne serai jamais chevalier, ni même troubadour.
Cette triste pensée donne une idée à Lubin. Il sort sa flûte et se met à jouer. La douce musique d'une berceuse s'élève dans la grotte. Le bébé hoquette. Sa respiration ralentit et bientôt le voilà endormi. La dragonne pousse un soupir de soulagement. Ouf, Lubin aussi. Au château, tout est prêt pour le banquet. Mais Lubin est introuvable. Les jongleurs et les ménestrels s'impatientent, bougonne son père. Notre enfant s'est peut-être noyé dans les douves, s'alarme Dame Aliénor. Le seigneur et sa femme, très inquiets, courent jusqu'au chemin de ronde. Dans la grotte, la maman dragonne s'est blottie contre son petit. Alors, Lubin pense à sa mère qui doit être morte d'inquiétude. À cet instant, il aperçoit un escalier qui disparaît dans la muraille. Aussitôt, il dit au revoir à la dragonne et quitte la grotte. L'escalier aboutit derrière une tapisserie qui se trouve dans la salle du banquet. « me voilà, pardon de vous avoir fait peur », dit Lubin en retrouvant ses parents. Folle de joie, sa mère le serre dans ses bras. Lubin est bien le héros de la soirée. Il a tant de choses à raconter. Les douves, le plongeon, la grotte, les dragons. Quand il a terminé, son père déclare « Tu as fait preuve de courage ». Dès demain, tu commenceras ton apprentissage avec... Il fait une... Lubin retient son souffle. Demain, tu commenceras ton apprentissage avec les plus grands musiciens du royaume pour devenir troubadour. Lubin n'en croit pas ses oreilles. Merci, papa. Tu seras fier de moi, je te le promets. Je le suis déjà, répond son père. Maintenant, passons à table. Depuis, le fils du chevalier est troubadour. Il parcourt le royaume en chantant l'amour des dragons, tandis que du fond des douves s'élève parfois une berceuse. Dragon, tu dors, ton beau rêve, va trop vite. Dragon, tu dors, ton beau rêve, va trop fort. C'était la bravoure du troubadour de Marie Tibi et Adeline Ruel, lue par Brigitte.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Antigone, d'après la pièce du poète tragique grec Sophocle.
Dans les temps anciens, une terrible guerre civile ravagea la ville de Thèbes. Lorsqu'elle fut terminée, le roi Créon ordonna de laisser le corps d'un guerrier, Polynice, sans sépulture, car il avait pris les armes contre sa patrie. Or, Antigone, sa sœur, brava cet interdit et fut arrêtée au moment où elle enterrait Polynice. On la conduisit donc devant le roi Créon, qui lui demanda si elle était au courant de la loi interdisant l'enterrement et si elle savait qu'elle risquait de mourir.
Je le savais, répliqua Antigone. Mais il ne s'agissait que d'une loi humaine. Il existe des lois plus importantes, celles qui sont au fond de nos cœurs. Toutes mes pensées et mon amour me commandaient d'ensevelir le corps de mon frère. Face à ces lois, la loi humaine ne pèse guère. Comme ne pèse guère le fait que je dois en mourir. Je préfère périr pour cela, plutôt que d'être à jamais désespéré d'avoir laissé le corps de mon frère sans sépulture.
C'était Antigone, d'après la pièce du poète tragique grec Sophocle, de Salomon
et Pierrot.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
La Maison Bleue de Phoebe Wall. Léo et son papa vivaient dans une vieille maison bleue à côté d'un grand sapin. La peinture s'écaillait, le toit était couvert de mousse. Il y avait des fuites, des craquements. Et quand le vent soufflait, la maison entière tremblait. Mais ils étaient chez eux. Léo aimait la maison bleue avec ses cachettes, ses recoins douillés. Quand la vieille chaudière flanchait, il mettait au four une tourte aux pommes pour réchauffer la cuisine. Puis, il dansait. Léo aimait la maison bleue en été avec son jardin débordant de framboises et de tomates. Il jouait dehors jusqu'au coucher du soleil. Depuis quelque temps, toutes sortes de constructions fleurissaient dans le quartier, autour de la Maison Bleue. De nouveaux immeubles sortaient de terre. Léo observait les pelleteuses et les camions de sa fenêtre. On aurait dit des jouets. Un soir, il entendit son père dire au téléphone « Je crains que nous ne soyons les prochains. » Mais Léo savait que son père se trompait. La Maison Bleue serait à eux pour toujours. Un jour, le papa de Léo vint le chercher à l'école. Mais au lieu de rentrer à la maison, ils achetèrent des glaces et se dirigèrent vers la place. « J'ai reçu une lettre du propriétaire aujourd'hui, » dit son papa. « Il a vendu notre maison, elle va être détruite. Je suis désolé, mon grand. » Nous allons devoir déménager. Léo était très en colère. Comment était-ce possible que quelqu'un leur prenne leur maison ? Il cria, donna des coups de pied et s'enferma dans sa chambre. Ils ne pourraient pas détruire leur maison s'ils n'en ressortaient jamais. Mais Léo commença à avoir faim et finit par descendre manger. « Moi aussi, je suis en colère », lui dit son papa. Alors, après le dîner, ils dansèrent, tapèrent des pieds et firent éclater leur rage. La guitare criait tandis que Léo interprétait un solo de hurlement et tous les deux se sentirent un peu moins en colère. Bientôt, la maison bleue se remplit de cartons. Chaque jour, un nouvel objet familier était empaqueté. Quand elle fut entièrement vide, la maison bleue était traversée de courants d'air et leur voix résonnait dans les pièces. « Les murs ont l'air si nus, » dit Léo. « Et si on les peignait ?» suggéra son père. Et tous deux furent un peu moins tristes. La nouvelle maison aussi semblait vide. Ils n'y se sentaient pas chez eux. « Je la déteste !» dit Léo. « Je comprends !» répondit son papa. Un jour, Léo et son papa passèrent devant le trou où se dressait auparavant la maison bleue. Ils fermèrent les yeux et la revirent clairement. Ils entendirent son parquet grincer et le goutte-à-goutte du robinet qui fuyait. Quand ils rouvrirent les yeux, leur maison avait disparu. Cette nuit-là, tandis que Léo était allongé dans son lit à regarder les murs vides de sa nouvelle chambre, il eut une idée. « Et si on la peignait ?» dit Léon. « Bonne idée !» répondit son père. Et ensemble, ils mélangèrent les couleurs jusqu'à obtenir le bleu parfait. Et tous les deux se sentirent un peu plus chez eux. Petit à petit, les objets familiers refirent leur apparition à la nouvelle maison. Après l'école, un jour, Léo et son papa préparèrent une tourte aux pommes dans la cuisine. Et ce soir-là, ils déballèrent la stéréo et dansèrent et tapèrent des pieds. Et ils chantèrent jusqu'à l'heure d'aller se coucher. Léo avait eu raison. La maison bleue serait à eux pour toujours. Et chaque jour qui passait, la nouvelle maison devenait un peu plus la leur, elle aussi. C'était La Maison Bleue de Phoebe Wahl, lue par Julie.
Vous venez d'écouter C'est en lisant qu'on devient liseron. Une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département. Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.